Bonjour Laurence.
Bonjour à tous. Beaucoup de questions deux jours après le suicide du maire de Rezé, retrouvé pendu dans sa mairie vendredi. Une enquête est ouverte sur les circonstances de sa mort. La politique ce dimanche, c'est le premier grand meeting de la candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse. Objectif, redynamiser une campagne qui patine et qui a été mise sur la défensive ces derniers jours. Dans ce journal, nous reviendrons sur l'opération française au Burkina Faso qui a permis de neutraliser 40 djihadistes. Et puis les écorces de platane pour connaître le niveau de pollution d'une ville. Ça se passe à Paris. Mathilde Dehimy nous dira tout de cette initiative originale.
Et puis nos invités ce matin, dans 20 minutes, Karine Bécard.
Et bien justement, à quelques heures du premier grand meeting de Valérie Pécresse, rendez-vous à 7h50 avec l'une de ses porte-paroles, Agnès Evren.
Et à 8h20, nous recevrons le député européen Bernard Guetta, ancien correspondant à Moscou et à Varsovie. On va tenter avec lui de comprendre les réelles intentions de Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. Stupeur, incompréhension et maintenant beaucoup de questions à Rezé, près de Nantes.
Le maire Hervé Nau s'est suicidé dans sa mairie vendredi. L'élu de 58 ans a été retrouvé pendu. Il avait auparavant reçu plusieurs lettres malveillantes qui le visaient, lui et sa famille. Il avait d'ailleurs pris contact avec la justice il y a quelques jours. Mais pour le moment, Mathieu Bonnour, aucun lien n'a pu être établi pour le moment entre ces lettres et son suicide.
Au bar tabac du quartier Ragon, les clients parlent tous du suicide de leur mère. Ils sont encore sous le choc. Marie-Chantal n'arrive pas à réaliser.
Oh là là, c'est horrible. Ça, c'est triste. Parce que pour moi...
Les larmes montent. Elle a du mal à finir sa phrase.
Quand même, pourquoi s'en prendre aux mères? Enfin, franchement. Non, je comprends pas. Non, non. Je suis bouleversée par ça quand je l'ai su.
Hervé Nau avait 58 ans. Il avait été élu maire aux dernières élections. Jacques a le sentiment qu'il y a de plus en plus de violence.
C'est le climat actuel qui est délétère et cette violence verbale, cette non-tolérance envers l'autre, je supporte pas.
Dominique partage aussi ce constat. Il est choqué d'apprendre l'existence de ces lettres malveillantes.
Je pense moi surtout que la justice là-dessus, elle doit être très 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 dure avec eux, quoi.
Le chef de cabinet de la mairie avait pris contact avec la justice en début de semaine au sujet de ces courriers.
Pas qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec sa politique, rien ne justifie ce genre de choses, quoi.
Devant la mairie, Olivier est venu apporter un bouquet de fleurs. Cette violence est inacceptable pour lui.
On va retrouver ces salopards. Ce genre de personnes ont contribué à sa mort. Pour moi, ce sont des assassins. Voilà.
Une enquête sur les circonstances précises du suicide du maire de Rezé a été confiée à la police judiciaire.
Mathieu Bonnour de France Bleu Loire-Océan. Il risque jusqu'à 3 ans de prison. 3 passagers du vol Paris-Cayenne d'Air Caraïbes de vendredi soir sont en garde à vue. Une bagarre a éclaté à bord entre ces 3 personnes. De nombreuses vidéos de ces violences à bord de l'avion ont fait le tour d'Internet. Le procureur a prévenu que le parquet sera particulièrement sévère car ces violences ont mis en cause la sécurité du vol et donc des passagers. 300 verbalisations, une cinquantaine d'interpellations. Parmi elles, une figure emblématique des Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez. Vers minuit hier soir, les forces de l'ordre tentaient encore de disperser quelques dizaines de manifestants irréductibles près des Champs-Élysées. Des manifestants au nombre de 32 000 en France, contre le pass vaccinal, contre la vie chère, contre Emmanuel Macron. Des manifestants qui ont tenté de bloquer la capitale sans succès. À Montpellier, le rassemblement de 2500 personnes place de la Comédie a vite dérapé. Clara Guichon.
Avec des désaccords entre les manifestants dès le départ du cortège, comme là où une antipasse prend à partie un gilet jaune.
Nous ne sommes pas ni des gilets jaunes, nous sommes des gens libres
madame,
de nos pensées.
Personne ne vous impose d'être gilet jaune.
Il n'y a pas de souci. Vous avez crié gilet jaune, gilet jaune. C'est ce que je veux dire. Il ne faut pas récupérer les idées qui étaient libres, sans parti politique,
on récupère rien du
sans religion.
Pendant ce temps-là, la tension monte avec les forces de l'ordre. Des black blocs infiltrent le cortège, montent des barrages de poubelles, 80 CRS sont déployés. Ils prennent les manifestants en sandwich, rue Foch, sur 300 mètres, et répliquent avec des bombes lacrymogènes.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas pris, quand même.
Dominique, un gilet jaune montpelliérain de la première heure.
Ce que je trouve dommageable, c'est qu'on est là pour une manifestation pacifique, et en fait, on se fait prendre à revers par les petits jeunes qui sont, ils ont envie d'aller courir vers la police. Hein. C'est tout simplement ça. Hein. Et sachant que c'est un rassemblement national à Montpellier, c'était sûr qu'on allait prendre de la lacrymo. D'ailleurs, ils n'ont pas les dîners sur les forces de l'ordre, hein, y en avait partout.
Les Black Blocs et les CRS vont s'affronter pendant plus de 4 heures à coups de feux de poubelle, de vitrines vandalisées et de bombes lacrymogènes.
Clara Guichon de France Bleu Hérault et certains de ses convois doivent maintenant se rendre à Bruxelles pour exprimer leur ras-le-bol général.
La grande salle parisienne du Zénith réussira-t-elle à relancer la campagne de Valérie Pécresse?
La candidate LR à la présidentielle va y tenir cet après-midi son premier grand rendez-vous de campagne. 6000 supporters attendus. Car après avoir décollé dans les sondages début décembre, dans le sillage de son investiture, elle marque le pas loin derrière Emmanuel Macron. Valérie Pécresse est aujourd'hui dans un mouchoir de poche avec ses rivaux d'extrême droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Rendez-vous donc à 15h30, Porte de la Villette, où le camp Pécresse espère relancer sa championne Anne Souhaitement.
De l'avis de l'un des plus fidèles lieutenants de Valérie Pécresse, ce sera le discours de sa vie. Fini l'énumération de ses points de programme, fini l'image d'une candidate entourée par les mousquetaires de la primaire, Ciotti, Barnier, Bertrand et Juvin, Valérie Pécresse sera seule sur scène aujourd'hui. 45 minutes de vérité, un discours qu'elle a écrit de sa main, insiste son entourage. Parler aux Français, se dévoiler, présenter sa vision de la France de demain, plaide un proche, mais pas question de faire du Le Pen, de faire pleurer dans les chaumières, ce n'est pas son style, précise un élu. Après un début de campagne marathon, Valérie Pécresse a mis le bouton sur pause ces derniers jours pour préparer son moment. Un tournant de la campagne veut croire un parlementaire le nez sur des sondages qui montrent une candidate scotchée au niveau de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Un moment charnière donc, mais en coulisses, la droite doute. Si Valérie ne marque pas des points, aujourd'hui le second tour pourrait bien s'éloigner, lâche un grand élu. C'est maintenant ou jamais, prévient un cadre.
Anne Souhaitement. À l'étranger, les efforts diplomatiques n'ont toujours pas réussi à faire baisser la tension entre la Russie et les Occidentaux à propos de l'Ukraine. Coup de fil en Syrie hier entre Moscou, Washington et Paris. Une invasion russe de l'Ukraine est présentée comme étant potentiellement une question de jour par la Maison-Blanche. Une mise en garde absurde, dit Vladimir Poutine. Après les attentats au Bénin, l'armée française tue 40 djihadistes au Burkina Faso. Alors que son avenir est fortement remis en question, la force Barkhane a annoncé hier avoir tué une quarantaine de djihadistes au Burkina, pays voisin du Mali, mais où les troupes françaises ne sont pas stationnées. Le point sur place avec Claude Guibal.
C'est à la frontière avec le Bénin, mais bien sur le territoire burkinabé, que les forces de Barkhane ont donc frappé, tuant plus d'une trentaine de djihadistes circulant à moto, une colonne d'hommes que le renseignement français avait identifié comme responsable de l'attaque qui a fait 3 morts cette semaine dans le parc frontalier de la W, 3 morts dont un ancien militaire français devenu garde de la compagnie d'Eco Rangers African Parks. Une opération menée en coordination avec le Bénin et le Burkina Faso, insiste le communiqué de l'armée française, une volonté évidente de Barkhane de montrer son efficacité alors que sa présence est violemment contestée. Au Mali, mais aussi au Burkina. Le Burkina Faso, où la population est suspicieuse, elle demande régulièrement comment une armée aussi puissante que l'armée française n'a pu en 9 ans d'existence porter de coups fatals à des terroristes circulant à moto dans le désert. Une suspicion qui nourrit la colère contre la présence de l'armée française au Sahel. À Ouagadougou, Claude Guibal, France Inter.
Le sport avec les Jeux Olympiques de Pékin et un vainqueur ce matin, c'est la neige, la vraie, sur le site de Yangtze. On attend désormais la deuxième manche du slalom géant homme. Les Français Mathieu Fèvre et Thibaut Favreau sont bien placés. Ils ont réalisé les 3e et 5e chronos de la première manche, dominée par le favori suisse Marco Odermatt. 11e temps seulement pour Alexis Peintureau. Et puis cette deuxième victoire en 2 matchs pour le 15 de France, au terme d'un combat de 80 minutes. Le 15 de France a donc battu l'Irlande 30-24 hier et prend une option pour la victoire finale dans le tournoi des 6 nations de rugby. Prochain match face à l'Écosse le 26 février.
Si vous voyez dans une rue de Paris votre voisin se promener avec un sac plastique à la main, un sac de congélation, pourquoi pas, ce n'est pas forcément pour aller ramasser des crottes de chien.
Il a peut-être pour mission de récolter des écorces de platane. La ville de Paris et des scientifiques lancent un appel aux volontaires car la pollution, notamment automobile, se fixe sur les écorces. Les platanes sont donc un excellent thermomètre. La formation s'est tenue avant-hier à l'Académie du Climat. Elle a attiré quand même 70 personnes. Mathilde Dehimi, reportage.
C'est un coup de pouce bien naturel, dit Nicole. Sac à la main, prête à récolter les écorces qui se décrochent des platanes.
D'après ce que j'ai compris, pour les prélèvements, il faudra prendre l'écorce, retourner pour qu'il n'y ait pas de contamination. Il faut noter la circonférence de l'arbre, la hauteur à laquelle on a pris l'écorce, l'endroit surtout.
Il suffit d'un stylo, d'un GPS et d'un mètre ruban pour mesurer l'arbre. Une promenade utile, un acte citoyen, une sortie pédagogique. Les motivations sont multiples pour ces volontaires de tout âge.
Non, un petit bout, ça suffit pas. Essayez de le faire à taille humaine, donc un petit peu au-dessus de votre tête, et vous pouvez avoir un bon échantillonnage.
Sans ces volontaires, impossible d'obtenir autant d'échantillons des rues de Paris. Et les enjeux scientifiques sont importants pour cartographier la pollution. Audi Zambert de l'Institut de physique du Globe de Paris.
On mesure tout ce qui est magnétique, donc les oxydes de fer, et avec les oxydes de fer, on va avoir tout un tas de métaux, notamment des métaux lourds qu'on peut retrouver dans les carburants, ou alors au niveau des freins, et tout ce qui est abrasion aussi lié aux pneus des véhicules.
Ces zones pourront ainsi être comparées, surtout s'il y a des aménagements d'une année sur l'autre. Certains volontaires espèrent que ces données scientifiques ne serviront pas à terme des argumentaires politiques. Ils ont jusqu'au 31 mars pour ramasser leurs écorces.
Mathilde de Dehimi.
Voilà, les platanes, c'est une affaire qui va intéresser Alain Baraton. On va le rejoindre dans 5 à 6 minutes. C'était le journal de Laurence Thomas. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Avec du soleil aujourd'hui à l'est, Jean-Michel Gounaski.
C'est vrai, du soleil de l'Auvergne-Rhône-Alpes au Grand Est. En revanche, sur le bassin méditerranéen, où le vent de sud sera sensible, où on va rester sous le coup d'entrée maritime humide, touchant le golfe du Lion ce matin, puis gagnant vers l'ouest de la Provence. Sur la pointe bretonne, c'est l'arrivée d'une perturbation qui va donner de la pluie et du vent à 80 km à l'heure. Au fil de la journée, ce temps pluvieux-venteux va toucher la Normandie, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Enfin, des Hauts-de-France au Midi-Pyrénées, en passant par le bassin parisien et le Limousin. Le ciel va fortement se couvrir en seconde partie de journée. Les températures, elles vont profiter de l'air doux qui remonte d'Espagne pour généralement afficher 3 à 5 degrés de plus qu'hier.
Jean-Michel Gounaski, Météo France.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel ? Pour les personnes de 18 ans et plus, dès 3 mois après la dernière injection. Pour les personnes de 12 à 17 ans, dès 6 mois après la dernière injection. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Il est 7h41 sur Inter.
Le 6-9 du week-end. Éric Delvaux sur France Inter.
Ma vie de patient. Bonjour Véronique Julien.
Bonjour Éric, bonjour Karine.
Bonjour Véronique.
Comme tous les deuxièmes lundis de février, demain 14 février, ce sera la journée internationale de l'épilepsie, maladie neurologique. Elle touche 50 millions de personnes dans le monde, 700 000 en France. C'est une maladie qui est impressionnante, notamment pour les crises qu'elle génère. Et on ne sait pas toujours comment réagir. Alors ce matin avec vous Véronique, petit rappel des bons gestes à adopter en pareille situation.
Oui, alors toutes les crises d'épilepsie ne sont pas aussi impressionnantes. Hein. Il peut y avoir dans cette maladie des plus petites crises qui sont des absences de quelques secondes, des crises partielles. Et puis, il y a les fameuses crises, celles qui s'accompagnent souvent d'une chute, de convulsions, de crispation de la mâchoire, de raideur, avec perte de conscience quasi immédiate du patient. Alors que se passe-t-il pendant la crise ? Eh bien, les neurones s'hyperactivent, il y a une sorte d'orage électrique dans le cerveau qui disjoncte, la personne s'écroule, elle a des gestes incontrôlés, ne répond plus, elle peut se mettre à vomir. On est dans ce cas face à quelque chose de fait de très impressionnant. Certains malades d'ailleurs hésitent à sortir hein, de peur de faire une crise. Et justement, les associations plaident pour qu'on ait les bons réflexes, un peu comme on l'a fait avec les accidents cardiaques ou les AVC. On connaît désormais les bons gestes.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement quand on est face à cela, dans un lieu public par exemple ?
Alors justement, je lisais l'autre jour le tweet d'un médecin qui venait d'assister à une scène, crise d'épilepsie, quelqu'un s'approche du malade et lui met la main dans la bouche pour ne pas qu'il avale sa langue. Ça part évidemment d'une bonne intention, mais ça ne sert à rien, rappelle l'Institut des épilepsies. La vraie chose à faire, explique sa présidente Delphine Danecker, c'est de mettre le patient hors d'état de se faire mal, de le mettre aussi, si c'est possible, en position latérale de sécurité pour qu'il ne s'étouffe pas s'il se met à vomir.
La réaction à avoir, c'est empêcher la personne de se blesser. Si on est là au moment où elle chute, ben c'est retenir au maximum sa chute, lui enlever ses lunettes, tout ce qui peut la blesser. Il faut surtout pas donner à boire, donner quoi que ce soit, surtout pas tenir la langue ni mettre les doigts dans la bouche parce que la personne, en plus, peut mordre. Généralement, une crise d'épilepsie, ça va durer 1 minute, 1 minute 30. Par contre, ça arrive plus rarement. Si la crise dure plus de 3-4 minutes et qu'on sent que ça s'arrête pas, qu'il y a une série de crises, si la personne ne reprend pas du tout conscience, là, il faut appeler les secours.
Voilà, et puis pensez qu'au réveil du patient, il est un peu perdu, il faut l'aider aussi à reprendre ses esprits. Je rappelle que dans la plupart des cas, l'épilepsie se traite, on réduit les symptômes et on peut même supprimer les crises. Mais dans 20% des cas, elle est dite réfractaire, c'est-à-dire qu'elle résiste au traitement.
L'épilepsie avec les gestes qui sauvent, cette chronique est déjà sur le site de franceinter.fr. Merci Véronique Julia. À suivre La Main Verte d'Alain Baraton.
La Main Verte avec Orman, le leader européen allemand dans la fabrication de portes d'entrée et portes de garage. Rendez-vous sur Orman.fr.
Le jardinier de Versailles. Bonjour Alain.
Bonjour Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Ce matin, portrait de Joseph Banks. C'est un botaniste anglais né le 13 février 1743.
Et oui, Joseph Banks qui est né dans une famille aisée, ce qui lui permet une scolarité de qualité. Ses professeurs ne tarissent pas d'éloges sur son sérieux et les résultats scolaires font la joie de ses parents. Joseph Banks consacre